Tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Bonjour auditeurs de Nantes ou d'ailleurs, bienvenue sur la planète de la Ligue des droits de l'homme, section nantaise. Aujourd'hui, nous allons parler du droit au logement avec Annie. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le droit au logement ?
Le droit au logement est-il un droit fondamental pour vous ?
Oui, parce que tout le monde a le droit d'être à l'abri. Aussi bien des intempéries que des agressions ou autre chose. Ce n'est pas un droit ni individuel ni réservé à certaines personnes.
Oui, parce qu'il fait froid l'hiver et puis que tout le monde a besoin de se loger, voilà.
Pour moi, chaque personne a le droit à se loger. Quand je vois tous les bâtiments vides dans le centre-ville ou qui sont inoccupés, moi je trouve ça vraiment dégueulasse, et, voilà, ça m'énerve.
Ne pas être logé au 21e siècle, voilà, c'est... Il n'y a pas de mots pour le dire, c'est vraiment, vraiment le béaba même des droits. Quoi.
Pour moi, le droit au logement est un droit fondamental, mais qui n'est pas respecté. Même le dispositif du 115 n'est pas à la hauteur des attentes, il y a encore des gens à la rue tous les soirs.
Le logement conditionne l'ensemble des autres aspects de la vie des hommes et des femmes. L'impossibilité d'accéder à un logement où l'accès à un logement de mauvaise qualité ne permet pas l'accès aux autres droits sociaux, comme le droit à l'éducation, le droit au travail ou un revenu minimum d'existence. Ainsi conçu, le logement a un rôle fondamental pour la survie de l'homme, son aptitude au travail, la sécurité de la société et sa cohésion. Donc oui, le logement est un droit. Il est reconnu comme un droit social au niveau international par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Une proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la garantie d'un droit au logement effectif a été enregistrée à la présidence du Sénat le 6 juin 2012. Le Conseil institutionnel, la plus haute juridiction française, reconnaît que le droit au logement est un objectif de valeur constitutionnelle. Devant la grande pénurie de logements, devant le nombre de personnes en attente, en 2007, une loi instaure le droit au logement opposable, dite droit d'allo. Elle reconnaît un droit au logement décent et indépendant aux personnes qui ne peuvent accéder par leurs propres moyens à un tel logement ou s'y maintenir. Je ne vais pas la détailler ici parce que c'est une loi qui est un peu compliquée. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas rempli toutes les fonctions qu'elle devait remplir. Le logement, un droit, mais aussi l'hébergement. Le droit à l'hébergement est un droit fondamental et inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire quelle que soit la situation administrative de la personne. Et ça, c'est très important, les préfectures l'oublient souvent. Donc c'est un droit fondamental selon l'article 345.2.2 du Code de l'action sociale et des familles qui dit « Toute personne sans abri, en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. »
Là où existe une classe d'hommes sans subsistance, là existe une violation des droits de l'humanité. L'équilibre social est rompu. La Rochefoucauld-Liancourt, président du comité de mendicité, 1790. Alors que le 27 juillet 2017, Emmanuel Macron déclarait que sa première bataille serait de loger tout le monde dignement, pouvez-vous nous faire un petit état des lieux de la France et plus spécialement pour Nantes et son agglomération ?
Bien sûr. Dans notre pays, le droit au logement est complètement bafoué. 4 100 000 personnes souffrent du mal-logement. Parmi elles, 1 098 000 sont privées de logement personnel, c'est-à-dire elles sont hébergées ou elles sont... Et environ 380 000 personnes sont sans domicile, qu'elles vivent en hébergement ponctuel, en bidonville, en squat ou à la rue. Ces chiffres, nous les tenons du dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, qui est sur cette question-là, ce qu'il y a de mieux. Donc, on n'a pas réinventé des choses, nous, à la LDH, on a repris les, les chiffres de l'abbé Pierre. Donc ça, c'est pour le logement. Et l'hébergement d'urgence, alors là, c'est encore plus catastrophique, car malgré... Alors, il y a eu 97 000 places d'hébergement d'urgence qui ont été créées en France, qui continuent de fonctionner. Et malgré ce maintien-là, par exemple, le 5 décembre 2022, 5014 personnes, dont 1848 enfants, ont appelé le 115. Le 115, c'est le numéro d'urgence quand on a besoin d'être hébergé. Ont appelé le 115 et n'ont rien obtenu. Donc ça, c'était une photo le 2 décembre. Et ces chiffres ne reflètent pas l'intégralité de la situation parce que énormément de gens n'appellent plus le 115. Ils sont découragés, ils n'obtiennent rien. Non seulement ils n'obtiennent rien, mais la plupart du temps, c'est même pas décroché. C'est-à-dire, voilà, ils sonnent. Et quand c'est décroché, ils ont le répondeur. Voilà. Donc du coup, il y a plein de gens qui ne veulent plus faire le 115. Et s'ils ne le font pas, alors là, c'est sûr que s'ils ont une rupture d'appel du 115, la fois suivante où ils appellent, c'est fini, ils n'auront rien, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même très compliqué.
Je crois que normalement il y a une loi qui est censée garantir un logement décent pour tout le monde. Mais je pense qu'elle n'est pas respectée parce que quand on sort dehors, on voit qu'il y a beaucoup de sans-domicile. Et du coup l'État pourrait aider ces sans-domicile, par exemple en faisant des centres ou en procurant une aide financière à des associations.
Pour moi, l'État, je pense qu'il pourrait ouvrir beaucoup plus de centres ou de maisons pour recueillir les personnes à la rue ou faire des logements gratuits pour ces personnes. Ou au moins, à la place, si on dit qu'on n'a pas assez de logements, à la place de tout ce qui est maisons secondaires et tout, on pourrait en faire des logements pour justement les personnes qui n'ont même pas une seule maison.
Alors à Nantes, les associations estiment à 3000 le nombre de personnes à la rue en bidonville ou en squat. Avec, en ce qui concerne par exemple les habitants des bidonvilles, qui sont à peu près 2000-2500, il y a 40% d'enfants parmi eux. Alors comme ailleurs, le 115 est saturé la plupart du temps, les appels ne sont pas décrochés, enfin voilà. Les bidonvilles sont sans cesse expulsés. D'où une énorme difficulté pour la santé, pour la scolarisation. Par exemple, un jour ils sont à Saint-Herblain, ils sont expulsés, le lendemain ils sont à Nantes, il faut refaire les inscriptions scolaires, enfin, c'est hyper compliqué. Après on dit, les habitants des bidonvilles ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école, mais si, ils veulent bien, mais les conditions sont... Et puis le suivi santé aussi, c'est quand même une population qui a... de gros problèmes de santé, et par exemple Médecins du Monde, qui les suit régulièrement, voit qu'il y a des ruptures dans le parcours de soins, et donc il faut tout recommencer, quoi. Donc c'est hyper compliqué. Alors cette année, pour la deuxième fois, là, depuis janvier, le plan Grand Froid a été activé. Donc le plan Grand Froid, c'est quand il fait moins 1, moins 2 la nuit. Bon, quand il fait 3 ou 4, la température d'un frigo, on peut dormir dehors, il n'y a pas de problème. Mais là, on active, donc moins 2, moins 1, moins 2, on active le plan grand froid. Donc on ouvre un gymnase, les gens vont dedans, ils rentrent à partir de 19h, ils doivent partir à 8h30 le matin. Et puis quelquefois, on change en cours de route. C'est-à-dire les gens pensent qu'ils vont avoir un hébergement pendant toute la période de grand froid, mais finalement, pour une raison ou pour une autre, on ferme ce gymnase, on en ouvre un autre. Donc les personnes qui étaient à l'abri, elles doivent refaire le 115. Donc elles ne sont pas sûres non plus d'avoir des places. Donc ça, c'est le plan grand froid. Il y a aussi tous les mineurs étrangers isolés, qu'on appelle MNA. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine connues par les associations, parce qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas, il y en a une vingtaine qui sont vraiment à la rue. Et d'ailleurs, ils n'aiment pas trop aller dans les distributions alimentaires et tout ça, parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a quand même quelquefois des bagarres et tout ça. Donc du coup, ils sont... Donc c'est des gamins et ils sont dehors, quoi. Donc voilà. Alors, il y a eu quelque chose de bien, là, en 2021, la métropole a voté à l'unanimité, donc les 24 communes de la métropole ont voté un budget qui correspond au 1% du budget métropolitain pour lutter contre le sans-abrisme. Donc récemment, on a rencontré la ville de Nantes et la métropole, et alors ce budget correspond environ à 10 millions d'euros par an. Et en fait, depuis qu'il a été voté, jusqu'à fin décembre, il y a eu 1 800 000 euros utilisés. Les autres, voilà. Donc en fait, c'est vrai que les associations s'énervent un peu par rapport à ça. Et donc sur les 24 communes, il y a seulement 5 communes qui l'ont utilisé et les autres ne l'ont pas utilisé. Donc voilà un peu la situation à Nantes.
Ce qui veut dire que c'est un choix des municipalités ?
C'est-à-dire que la manière dont ce budget doit être dépensé, c'est y a un projet pour lutter contre le sans-abrisme. Il y a un projet qui est déposé soit la mairie, soit une association vient le déposer à la mairie. Et du coup, la mairie doit quand même l'accepter puisque la mairie doit payer 15% de ce projet et donc la métropole paye le reste. Alors, bon, effectivement, il y a des communes, peut-être, qui n'ont pas de problème de personnes à la rue sur leur territoire. Bon, il y a quand même des petites communes. On prend Indre, par exemple, qui est la plus petite commune. Ils ont quand même deux maisons qu'ils ont utilisées pour mettre des personnes à l'abri. Donc, voilà, c'est... Et à Nantes, on trouve que c'est pas suffisant, quoi. Hein, que, d'ailleurs, par exemple, le collectif Personnes à la rue a déposé un projet d'une maison SAS, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un squat, c'est un truc illégal qui héberge des familles, une quarantaine de personnes, qui doit être expulsée. Donc, du coup, l'association qui gère cette maison est allée à la mairie, a déposé un projet au mois de mai, un projet qui tient vraiment la route. Et ouais, d'accord, très bien. Une prochaine réunion en octobre, en fait, elle n'a pas eu lieu. Et finalement, c'est en janvier, quand on a demandé de nouveau à rencontrer la mairie, on a quand même eu enfin la certitude que oui, le projet serait réalisé. Bon, après, il faut trouver des lieux. Des lieux, il y en a plein, hein, mais bon, il faut prendre le temps de les trouver. Donc voilà, ça, c'est un exemple. La mairie a ouvert aussi un lieu avec 35 places pour justement les mineurs à la rue. Et ça, c'est bien, on est content, mais c'est pas suffisant. Il y a vraiment un problème d'échelle. Voilà.
Article 25 de la Déclaration des droits de l'homme. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. La Ligue des droits de l'homme a signé un communiqué s'opposant à la proposition de loi Kasbarian-Berger. Pouvez-vous nous en expliquer un peu les tenants et les aboutissants ?
Donc les objectifs de cette loi, c'était de protéger les propriétaires contre les invasions de leur propriété par des squatteurs et tout ça. Enfin, c'est une loi inutile dans la mesure où il y a déjà tout un arsenal juridique qui, effectivement, poursuit les personnes qui spolient le bien des propriétaires. Il y a des peines d'amende, il y a des peines de prison. Enfin, c'était pas la peine d'en rajouter. Mais donc là, on a fait cette loi, mais elle est beaucoup plus large. C'est-à-dire que l'objectif qui est donné comme ça, c'est de dire... Protégeons les propriétaires, la propriété privée en France, tatitata, ouais, ok, d'accord. Mais finalement, il y a plein d'autres choses derrière. Et c'est une loi qui, finalement, criminalise un certain nombre de personnes. Enfin, quand je dis criminaliser, c'est peut-être un grand mot, parce qu'on ne va pas les condamner à perpétuité, mais quand même, ce sont des personnes qui risquent 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Donc, qui sont les personnes qui sont visées ? Les personnes sans bail, hébergées, victimes de marchands de sommeil, blabla, donc qui occupent comme ça sans bail. Les personnes sans abri, qui occupent un bâtiment vide, des logements vacants, des friches industrielles, donc ça veut dire tous les habitants des bidonvilles, par exemple. Et puis, dans les squats, c'est quand même extrêmement rare, ça arrive, mais c'est extrêmement rare, que des personnes qui se mettent à l'abri dans un lieu abandonné utilisent le logement que quelqu'un a laissé parce qu'il est parti 3 mois se balader. Les squatteurs, ils vont dans des maisons fermées, dans des... voilà. Donc, du coup, on les condamne, là, comme ça, voilà. Les accédants à la propriété surendettés, qui perdent leur titre de propriété, mais qui ne veulent pas partir, donc, eux, pareil. Les commerçants, les artisans dont le bail est résilié, et même les grévistes qui occupent leur usine. C'est-à-dire que toutes les personnes qui occupent un lieu sans droit ni titre, comme on dit, eh ben, ils risquent, mais ils risquent gros, quoi. Et vouloir se loger, c'est pas un crime, quoi, puisque c'est un droit qui est bafoué. Donc voilà, en gros, la loi Casbarian-Berger.
Libre et égaux.
Notre chronique sur le droit au logement s'achève. Nous vous donnons rendez-vous mardi 21 mars pour parler du droit des femmes. Et notez d'ores et déjà sur vos agendas la date du 10 février 2024 à la Manufacture de Nantes où se dérouleront les rencontres de l'égalité et des actions solidaires. À très bientôt sur les ondes ou dans nos locaux. Notre porte vous est grande ouverte. À bientôt.